Portrait de femmes de notre matrimoine, saison 2022-2023, c'est-à-dire les femmes de tous les continents. Jacqueline Engraff, présidente de Femmes Solidaires, bonjour.
Bonjour Odile, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Fréquence Mistral. Alors aujourd'hui, nous restons en Europe puisque nous parlons d'une artiste peintre allemande, Paula Modersohn Becker. Elle est née en 1876 à Dresde, dans un milieu aisé et cultivé, troisième enfant d'une fratrie de sept. Et elle a grandi en Allemagne, à Brême, dans le nord-ouest de l'Allemagne, pour situer. Elle reçoit ses premières leçons de dessin à 12 ans, en 1892, lors d'un séjour de 7 mois à Londres, donc une vocation précoce. Ses parents la destinent à l'enseignement et elle doit donc terminer ses études d'institutrice à Brême avant d'être autorisée, en 1896, elle a 20 ans, à suivre les cours de l'école de dessin et de peinture ouverte par l'Association berlinoise des femmes artistes à Berlin, cette fois dans le nord-est de l'Allemagne, de l'autre côté de l'Allemagne. Là, elle réalise de nombreux dessins. En 1898, elle s'installe dans un petit village proche de Brême, Worpswede, où elle rencontre plusieurs artistes qui forment une communauté artistique indépendante. Clara Westhoff, qui deviendra sa grande amie, Heinrich Vogeler et Otto Modersohn, qui deviendra plus tard son mari. En 1900, elle fuit son village pour aller à Paris, attirée qu'elle est par le Paris de l'exposition universelle, le Paris de Cézanne, du douanier Rousseau, le lieu de rencontre de tous les courants artistiques européens à l'époque. Clara Westhoff, son amie, s'y trouve déjà. Financièrement soutenue par ses parents, elle s'installe à Montparnasse, suit les cours de l'académie mixte Colarossi, une académie fondée en 1870 par l'ancien modèle Filippo Colarossi. Elle arpente les musées, se découvre une fascination pour Cézanne, alors inconnue, et qui l'inspirera pour ses natures mortes. De retour à Worpswede, son père lui conseille de devenir gouvernante pour gagner sa vie. Mais fatiguée par son séjour parisien, elle est malade, elle doit prendre du repos. Otto Modersohn lui rend visite et c'est ainsi qu'il se fiance puis se marie le 25 mai 1901. Elle a 25 ans. Pendant 3 ans, Paula tente de concilier son ambition artistique avec sa vie d'épouse, de femme au foyer et de belle-mère d'une petite fille, la fille d'Otto. Son atelier est un petit endroit dans une cour de ferme où elle passe une grande partie de ses journées à peindre en solitaire. Sa belle-fille est son modèle pour les portraits d'enfants. Otto, lui, est très heureux pendant ses années de vie conjugale. C'est un homme aimant, protecteur, persuadé du talent de son épouse, mais ne comprenant pas vraiment son style novateur, lui, le peintre académique conservateur. Par ce mariage, Paula est délivrée de la contrainte d'exercer un métier de subsistance alimentaire, car de toute sa vie, elle ne vendit que 5 tableaux, n'exposa pratiquement pas et n'aura pas de mécène. Pourtant, elle écrit dans ses carnets « L'expérience m'a enseigné que le mariage ne rend pas plus heureux. Il ôte l'illusion, autrefois omniprésente dans tout l'espace, qu'il existe une âme sœur. J'écris ceci dans mon livre de cuisine, le dimanche de Pâques 1902. Je suis assise dans ma cuisine et je prépare un rôti de veau. » Contrairement à son mari, Paula a besoin de contact vers l'extérieur. À 2 reprises, elle fuit le foyer conjugal pour aller à Paris en 1903 et 1905, où elle découvrira sa force dans une solitude mélancolique dont témoignent ses carnets. Elle y retrouve Rainer Maria Rilke, le poète autrichien de langue allemande, qui la présentera à Rodin et qui croit en elle. En 1906, elle tente une rupture en quittant à nouveau Worpswede, priant Otto de s'accoutumer à l'idée qu'elle suit sa propre voie. Otto est désarçonné par l'évolution de la peinture de Paula. Elle tombe dans le travers de tout rendre grossier, hideux, bizarre et lourd, dit-il. Mais il continue de l'entretenir financièrement. Aussi, même la famille de Paula lui reproche son égoïsme. En fait, elle a tout le monde contre elle dans sa famille, elle est incomprise. Mais au même moment, elle reçoit du sculpteur Bernard Oetker des éloges qui lui vont droit au cœur. « Vous m'avez fait des miracles, dit-elle. vous m'avez restitué à moi-même. J'ai pris courage. Je commence maintenant à croire que quelque chose restera de moi. Et lorsque j'y pense, me viennent les larmes de la félicité. Vous m'avez rendue si heureuse, j'étais un peu seule. Rilke, lui aussi, lui donne le courage de croire en elle, lui achète des toiles, mais c'est insuffisant pour lui assurer l'indépendance économique, bien sûr. Elle n'osait pas exposer tant elle n'avait pas confiance en ce qu'elle faisait. Pour aborder les œuvres d'art, écrit Rilke, rien n'est pire que la critique. L'amour seul peut les saisir, les garder, être juste envers elles. Finalement, en 1907, par besoin financier mais affectif aussi, elle retourne à Worpswede chez son mari. J'ai remarqué cet été que je n'étais pas femme à savoir rester seule. Si j'ai tort ou raison, seul l'avenir pourra en décider. Le principal pour mon travail, c'est la tranquillité et je ne risque pas d'en manquer aux côtés d'Otto, explique-t-elle. Là, enfin enceinte, elle travaille peu, tout en souffrant de ne plus pouvoir passer plus de temps à peindre. Son dernier autoportrait s'intitule « Autoportrait au camélia ». Il est très sombre. Le 2 novembre 1907, elle met au monde une fille, Mathilde, et meurt d'une embolie le 20 novembre 1907. Elle n'aura pas connu, entre guillemets, la joie de la maternité, mais son malheur, car elle en est morte à 31 ans. Son dernier mot est « Schaden », dommage, dommage. Pour elle, pour nous. Son œuvre, pendant les 14 années de sa vie de peintre, Paula Modersohn-Becker produisit une œuvre considérable. 750 tableaux de petit format, un millier de dessins qui représentent des natures mortes, des visages d'enfants et d'adultes, des paysages, de marécages, de landes, de canaux de la région de Worpswede. Elle fut la première femme peintre à se représenter nue, ni Madone, ni Olympia, mais elle peint le corps qu'elle a. Elle peint aussi les enfants tels qu'ils sont ou qu'elles sont, sans les idéaliser. Elle leur rend leur réalité, leur gravité. Elle peint aussi une représentation laïque de la maternité, sans artifice, car elle recherchait la simplicité, l'absence d'effet, et loin du canon romantique, elle peint des femmes nues, débarrassées de tout désir masculin. Ce qui a suscité l'incompréhension dans son entourage direct et notamment d'Otto. En conclusion, nous dirons que Paula a vécu une vie difficile, écartelée en deux aspirations contraires de sa vie, déchirée entre l'exigence ardente de sa vocation de peintre doué et sa condition de femme de fin du XIXe siècle et de toute première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire femme au foyer, obéissante parce que protégée par son mari de la précarité financière, de la pauvreté, et ne pouvant pas vivre de son art parce que incomprise, pas reconnue et sans mécène. D'où ses allers-retours à Paris, sa tentative de séparation d'avec son mari et son retour auprès de lui, finalement son accouchement mortel, en un temps où l'accouchement était considéré comme un risque sans recours, sans secours, une fatalité exclusivement féminine. Elle a vécu le dilemme de n'avoir pas de lieu à elle, ni d'indépendance économique. Elle a vécu la tension entre des opposés, entre la conjugalité et la liberté, entre la ville et la campagne, le conflit intérieur entre le désir d'enfant et le désir de peindre. Elle n'est pas connue en France, alors pourquoi ? Parce qu'elle est une femme ? Parce qu'elle est allemande ou pour les deux. Par contre, elle est très connue dans son pays, bien plus que son mari. Elle est connue et reconnue. Elle est dans tous les musées allemands. Heinrich Vogeler a réalisé toute la portée de son œuvre et en a organisé des expositions en Allemagne. Sa fille Mathilde a créé la fondation Paula Modersohn-Becker en 1978. À Brême, un musée lui est dédié depuis 1927. En France, ce n'est qu'en 2016, c'est-à-dire plutôt récemment, que le musée d'art moderne de la ville de Paris lui a consacré une grande exposition. L'écrivaine Marie Dariussecq a fait paraître la même année, 2016, un livre sur la vie de Paula Modersohn-Becker, un livre dont le titre est un vers de Rainer Maria Rilke. « Être ici est une splendeur », un livre écrit d'après les carnets de Paula. Voilà ce que dit Marie Darieussecq. L'horreur est là avec la splendeur. N'éludons pas l'horreur de cette histoire, si une vie est une histoire. Mourir à 31 ans avec une œuvre devant soi et un bébé de 18 jours, écrit-elle. Alors, un cinéaste allemand, Christian Schwarzkopf, c'est difficile à prononcer, toujours en 2016, lui a consacré un film intitulé Paula, un film à voir, évidemment, quand on le peut. Donc, voici mes sources. Télérama hors série de juin 2019, le dossier « Le combat des femmes artistes au XIXe siècle ». Laure Adler, le dictionnaire intime des femmes, édition Stock 2017. Des extraits de « Être ici est une splendeur » de Marie Darieussecq, 2016. La vie de Paula Modersohn-Becker, collection Folio. Et Rainer Maria Rilke, « Lettre à un jeune poète ». Les Cahiers Rouges, édition Grasset, 1937 pour la traduction française. Les Lettres à un jeune poète ont été écrites entre 1903 et 1908.
Voilà. Merci Jacqueline. À la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine, on sera sur le continent africain.
Merci, bonne journée, au revoir.
Au revoir.